Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل
Nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 8 Azar, 1401 du calendrier iranien, 29 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le président iranien et le premier ministre irakien insiste sur la lutte contre les terroristes. Le premier ministre irakien a été accueilli officiellement par le président iranien Ibrahim Raisi ce mardi à Téhéran. L'Iran a atteint un niveau de dissuasion important dans ses industries militaires, a déclaré le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. Et en Cisjordanie, un Palestinien est tombé en martyr sous les balles des forces israéliennes. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani est en Iran pour une visite officielle afin de renforcer les relations bilatérales. Le nouveau premier ministre irakien Shia al-Soudani a reçu un accueil officiel du président iranien Ebrahim Raisi au complexe de Sadabad. Les deux hauts responsables ont tenu une réunion pour discuter des relations entre Téhéran et Bagdad. Il s'agit du premier déplacement officiel d'Al-Soudani dans un pays non arabe depuis qu'il est devenu premier ministre fin octobre. Il dirige une équipe de délégués politiques et économiques de haut rang pour cette visite d'une journée. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Un haut commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que l'Iran avait atteint un niveau de dissuasion important dans ses industries militaires, notamment dans les secteurs des missiles, des drones, de la défense aérienne, des radars et de l'espace. Le commentaire a été fait par le chef de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh. Il a déclaré que les nouveaux progrès de l'Iran peuvent désactiver les boucliers antimissiles des ennemis, à savoir des États-Unis, d'Israël et de leurs États vassaux pendant plusieurs décennies. Le général Hajizadeh a déclaré que la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique a créé une voie à suivre dans le domaine de la défense, en s'appuyant sur la puissance nationale du pays et sur les ressources humaines, plus précisément sa jeunesse. Le commandant a ajouté que de telles avancées peuvent également aider l'Iran dans d'autres domaines tels que l'économie. Le ministre syrien des Affaires étrangères a critiqué la récente résolution anti-iranienne de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme, affirmant que l'Occident instrumentalise les organismes internationaux comme l'ONU pour atteindre ses propres objectifs politiques. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien, Faisal al-Mekdad a qualifié la résolution d'arbitraire et d'inadmissible. Le ministre syrien des Affaires étrangères a déclaré que cette décision faisait partie des mesures occidentales contre les États indépendants afin de mettre en œuvre des projets néfastes à des effets destructeurs. Il a ajouté que cela représente une violation de la souveraineté de ces États et de leur droit de suivre des politiques conformes à l'histoire et aux traditions de leur peuple. L'Iran a fermement condamné la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui a appelé à une enquête sur des émeutes du pays déclenchées en septembre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères avait déclaré plus tôt que l'Iran ne coopérerait pas avec la mission de l'Organisation des Nations Unies. Nasser Kanani a déclaré que l'Iran a déjà formé un comité national d'enquête pour enquêter sur les événements. Nasser Kanani avertit également que certains pays occidentaux instrumentalisent les droits de l'homme à des fins politiques. Selon le diplomate, un tel recours ne fait que saper la légitimité des mécanismes de l'Organisation des Nations Unies et de les discréditer. La résolution anti-iranienne du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a été proposée à l'initiative contre-productive de l'Allemagne. Un autre Palestinien victime de la violence israélienne en Cisjordanie occupée porte à 4 le nombre total de meurtres du régime sioniste au cours des dernières 24 heures. Lors d'un tout récent incident, les forces israéliennes ont abattu un homme dans une voiture qui aurait percuté près de Ramallah. Auparavant, des soldats du régime sioniste avait abattu 2 jeunes hommes près de la ville. Un 4e Palestinien a reçu une balle dans la tête lors d'un raid sur la ville de Beit Amr à Al-Khalil. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, affirme que de telles évolutions sanglantes ne feront que renforcer le soulèvement de la nation palestinienne contre le régime d'occupation. Les opérations de la résistance palestinienne prenant de l'ampleur, les forces israéliennes craignent que Naplouse ne suive l'exemple de Jenin. Alors qu'Israël et l'autorité palestinienne tentent de contrôler la situation sécuritaire en Cisjordanie, la tension entre les Palestiniens et les occupants monte de jour en jour, au point que les responsables israéliens et américains mettent en garde contre le début d'une nouvelle intifada dans cette région. Dans ce droit fil, le service de sécurité intérieure israélienne, Shabak, a appelé au renforcement des mesures de sécurité dans le nord de la Cisjordanie et a averti que cette région risque de devenir incontrôlable. Le président ukrainien a averti ses compatriotes de se préparer à de nouvelles attaques russes contre les infrastructures, affirmant que les raids ne s'arrêteront que lorsque Moscou sera à court de missiles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti dans un discours vidéo dimanche soir que la semaine qui commence peut être aussi difficile que la semaine passée, marquée par des bombardements russes qui ont provoqué des pannes de courant massives alors que les températures hivernales s'installent. Nos forces de défense se préparent. Tout l'État se prépare. Nous élaborons tous les scénarios, y compris avec des partenaires occidentaux, a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à prêter attention aux alertes aériennes. Il faisait référence aux récentes frappes de missiles russes visant l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Le barrage de la semaine dernière a été le pire à ce jour, laissant des millions de personnes sans électricité et sans eau. L'OTAN, qui a été un allié clé de l'Ukraine dans la guerre, a également prédit de nouvelles attaques contre le réseau électrique et les infrastructures de l'Ukraine. Selon le chef de l'OTAN, la Russie utilise l'hiver comme une arme de guerre. Jens Stoltenberg s'exprimait avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bucarest mardi et mercredi. Le chef de l'OTAN a déclaré que la fourniture à l'Ukraine de systèmes de défense aérienne serait probablement une priorité. Aux yeux de l'Iran et de l'Irak, la sécurité, la paix et la stabilité de la région sont d'une importance toute particulière, d'où la ferme volonté et la coopération étroite des deux pays dans la lutte contre les groupes terroristes, les crimes organisés et toute autre source d'insécurité pour la zone, a ponctué le président iranien Ebrahim Raisi, ce mardi 29 novembre, lors d'un point de presse conjoint avec le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani en visite officielle à Téhéran. À la tête d'une délégation politique et économique, le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani, qui se rend pour la première fois depuis sa prise de fonction dans un pays non arabe, est arrivé à Téhéran ce mardi matin, le 29 novembre. Accompagné d'une délégation de hauts responsables politiques et économiques irakiens, Mohammad Shia al-Soudani a été accueilli par le président iranien Ebrahim Raisi au complexe Sadabad à Téhéran. Les deux parties se sont entretenus de diverses questions d'intérêt bilatéral, dont et surtout la sécurité et la stabilité de la région. Lors d'un point de presse conjoint avec le chef du gouvernement irakien, le président de la République islamique d'Iran a souhaité une amélioration des coopérations bilatérales entre les deux pays. Le président iranien a souligné que la sécurité, la stabilité et la paix de la région doivent être garanties par les autorités et les forces de la région. La présence des forces étrangères n'aidera nullement au rétablissement de la sécurité dans la région. Elle est par contre un problème ajouté à tant d'autres qui existent déjà, a noté le président iranien. À titre d'exemple, la présence des Américains en Afghanistan et en Irak n'a aucunement été efficace pour un retour à la sécurité et ne pourra pas être non plus un privilège pour d'autres parties de la région. En revanche, leur départ de la région peut certes être le prélude au rétablissement de la sécurité, s'est-il exprimé en ces termes. il a considéré la sphère économique et commerciale comme l'un des principaux domaines de négociation, ajoutant que les questions monétaires et bancaires, l'exportation d'électricité et de gaz étaient parmi les principaux domaines de négociation. Selon le président de la République islamique d'Iran, la visite du premier ministre irakien à Téhéran est le point culminant dans les relations entre les deux pays et les négociations bilatérales peuvent certainement être un grand pas franchi vers l'embellie des relations. Quant à lui, le premier ministre irakien a déclaré « La coopération en matière de sécurité a été discutée lors de cette réunion. La question de la sécurité des deux pays est interdépendante et indissociable et fait partie de la sécurité de la région. » Le premier ministre irakien a souligné par ailleurs que Bagdad s'est engagé à mettre en œuvre la constitution irakienne et qu'il ne permet dans ce cadre à personne d'utiliser le sol irakien pour nuire à un autre pays. Le premier ministre irakien a par ailleurs estimé que sa première visite à Téhéran avait pour objectif de renforcer les relations historiques entre Téhéran et Bagdad. Il a précisé « Le peuple et le gouvernement irakien n'oublient jamais le soutien de la République islamique à l'Irak face à Daesh, ainsi que la présence de conseillers iraniens qui ont sacrifié leur vie aux côtés de leurs frères irakiens dans la guerre du juste contre l'injuste. »
Bonjour et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors dans ce débat, il sera question du rapprochement de la Russie avec l'Iran dans les domaines scientifiques, commerciaux, défensifs et surtout politiques. Les deux pays mettent l'accent sur la nécessité de mettre fin à l'hégémonie américano-occidentale. Et bien sûr, il sera également question dans ce débat du transfert de gaz iranien et russe vers d'autres pays, ce qui va évidemment profiter à beaucoup de pays de la région. Sur le plan défensif et militaire et surtout sécuritaire, la coopération entre les deux pays n'a jamais été si forte. Et justement, pour dissiper les malentendus concernant l'Ukraine. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Iran et la Russie ont évoqué une intensification de la coopération. Moscou et Téhéran ont entamé ces derniers temps un important rapprochement. Les hautes autorités iraniennes et russes ont récemment évoqué une série de questions liées aux relations bilatérales et mettant l'accent sur une intensification de la coopération dans les domaines économiques, commerciaux, politiques, sécuritaires et militaires. Le président iranien et son homologue russe se sont récemment entretenus sur une série de questions liées aux relations bilatérales entre les deux pays. Le Kremlin précise que Vladimir Poutine et Sayed Ebrahim Raisi ont aussi abordé le domaine des transports et de la logistique, alors que les économies russes et iraniennes sont sous le coup de lourdes sanctions occidentales. Moscou et Téhéran s'accordent également sur la nécessité de mettre fin à une hégémonie américano-occidentale. L'Iran et la Russie ont signé des contrats d'une valeur d'environ 6,5 milliards de dollars en vue de coopérer dans le secteur du gaz. La diplomatie iranienne a expliqué que le plan de l'Iran était d'importer le gaz russe tout en exportant du gaz iranien vers les marchés étrangers, notant que cela profiterait à son pays en réduisant les coûts de transfert du gaz iranien du sud vers le nord. Ce projet conjoint contribuera également à accroître la solidarité politique entre l'Iran, la Russie et les pays intermédiaires tels que le Turkménistan et l'Azerbaïdjan, consolidant ainsi la stabilité politique, la sécurité et la paix dans la région selon les deux parties. Les deux pays s'accordent aussi sur les détails du contrat d'échange de pétrole et de produits pétroliers discuté en octobre lors d'une visite du ministre iranien du pétrole, Javad Hoji, en Russie. À cela s'ajoutent des zones franches industrielles et communes conjointes entre l'Iran et la Russie. L'adhésion de l'Iran à l'Union économique eurasiatique favorise la création des zones franches conjointes entre l'Iran et les États membres de cette union, à savoir le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Arménie, la Biélorussie et la Russie, sur la base duquel Téhéran et Moscou ont conclu un accord selon lequel une zone franche conjointe ou une zone d'investissement commune sera créée entre les deux parties afin de pouvoir développer le niveau des interactions économiques, commerciales et industrielles et la coopération dans le domaine de l'énergie, de l'industrie, du tourisme, des centres de transit et de logistique, des transports et des institutions monétaires, bancaires et financières. Jusqu'à présent, l'Iran et la Russie ont tenu au moins 15 réunions sous la forme de la Commission économique mixte Iran-Russe, au cours desquelles divers documents ont été préparés et signés par les deux parties. La Russie soutient également l'Iran dans le domaine du nucléaire. Face aux soi-disant inquiétudes des Européens concernant le programme nucléaire civil iranien, Moscou a déclaré que les nouvelles mesures nucléaires de l'Iran étaient une réponse à l'irresponsabilité des Américains et des Européens et à l'échec de ce dernier à honorer leurs engagements liés au plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC, envers l'Iran après le retrait unilatéral des États-Unis du pacte multilatéral. Sur le plan militaire et sécuritaire aussi, la coopération est forte. Pour dissiper les inquiétudes de Kiev quant à une prétendue fourniture de drones par l'Iran à la Russie pour être utilisée dans la guerre en Ukraine, des experts militaires iraniens et ukrainiens se sont récemment rencontrés pour résoudre des malentendus. Depuis de longues années, la République islamique d'Iran et la Fédération de la Russie ont des coopérations conjointes défensives, scientifiques et de recherche, et ces coopérations datent de l'époque avant le déclenchement du conflit en Ukraine.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, des experts des questions internationales qui ont accepté notre invitation, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à votre équipe et bonjour à mon collègue.
Malheureusement, la liaison n'est pas encore faite. Nous allons commencer avec M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, M. Luc Michel, la coopération entre la Russie et l'Iran n'a jamais été si forte, surtout dans le domaine politique et défensif. Et les deux pays veulent mettre fin à l'hégémonie américano-occidentale. Que pensez-vous?
J'avais pronostiqué dès 2015 le rapprochement de Téhéran et de Moscou. À l'intérieur de l'organisation de coopération de Shanghai, la Téhéran-Moscou est en train de transformer l'OCS en une contre-OTAN. Tout rapproche l'Iran et la Russie. Tout d'abord, ils ont le même ennemi qui est l'impérialisme américain, qui emploie une politique de sanctions et une politique d'assassinat ciblé. Ils sont alliés dans le domaine du gaz, puisque vous savez que les piliers de ce qu'on appelle l'Association des États producteurs de gaz, qui vise à réapproprier aux producteurs de gaz le marché du gaz, ce sont en Afrique, la Guinée équatoriale et l'Algérie, ce sont l'Iran et ce sont les Russes de Gazprom. Enfin, évidemment, ils se sont rapprochés parce qu'ils ont été alliés dans la guerre en Syrie et dans beaucoup de domaines. Ils sont, par exemple, tous les deux des soutiens du Venezuela. Enfin, l'Iran soutient militairement la marine russe dans le golfe de Guinée et dans l'entrée de l'océan Indien. Et elle soutient les Russes dans ce qu'on appelle la guerre hybride en Afrique. Guerre hybride qui a été inventée par l'Iran au Liban en 2010. Mais le plus important dans tout cela, c'est que les positions géopolitiques de l'Iran ont évolué. C'est une entreprise géopolitique globale. Par exemple, c'est une politique pan-arabe au Liban ou au Yémen. Mais ce qui les rapproche le plus, évidemment, c'est la crise ukrainienne. Puisque maintenant, l'Iran est sous sanctions depuis des décennies des Américains et les Russes sont sur les mêmes sanctions, avec des vols d'avoir, des chaînes d'avoir, des interdictions de voyager de leurs dirigeants, etc. Évidemment, Moscou ne peut avoir que de la sympathie pour l'Iran.
Je vais m'adresser à nouveau à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Luc Michel, vous avez pronostiqué justement depuis 2015 ce rapprochement très étroit entre la Russie et l'Iran, qui a donné beaucoup de résultats, mais dans l'avenir, justement, vous avez évoqué...
C'était une alliance logique, parce que les positions géopolitiques et géographiques sont complémentaires, et parce que généralement, avoir un ennemi commun, ça soude une alliance. L'ennemi, c'est l'ennemi américain et l'anti-américanisme, surtout depuis la crise en Ukraine. C'est le fondement de l'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie, qui est en train de s'étendre d'ailleurs en Afrique et en Amérique latine avec le Venezuela et Cuba.
Monsieur Philippe Hugon, est-ce que vous nous entendez? Bonjour.
Oui, je vous entends.
Comment allez-vous?
Ça va et vous?
Bien, très bien. C'est un plaisir de vous entendre. Ça vous est longtemps qu'on ne vous a pas eu dans cette émission le débat. Nous parlons bien sûr du rapprochement de la Russie avec l'Iran qui a donné beaucoup de fruits. Et ce rapprochement qui va assurer la sécurité de la région et peut-être annuler les sanctions exercées à l'encontre de l'Iran et de la Russie. Et les deux pays veulent mettre fin à l'hégémonie américano-occidentale dans la région. Que pensez-vous?
Je pense que c'est une très bonne chose parce que l'Europe et le monde occidental, d'une manière générale, ont toujours marginalisé à la fois la Russie et surtout l'Iran. Alors que il fallait mener une politique inverse, il fallait mener une politique de rapprochement de façon à éviter tout conflit, qu'il soit militaire, économique, financier, social, et on a pratiqué une politique à l'inverse. Alors il est normal que ça scinde un petit peu le monde en plusieurs bords, si je puis dire. Et en ce qui concerne la Russie et l'Iran et le rapprochement à tous les niveaux d'ailleurs, est plutôt une très bonne chose. Ça permet de rééquilibrer un petit peu la situation qui était très déséquilibrée jusqu'à présent. Donc il est vrai que l'Union européenne étant très proche des États-Unis sur un très grand nombre de dossiers, donc c'était vraiment une très bonne chose et je souhaite vraiment que cette collaboration entre la Russie et l'Iran non seulement aille au bout, mais se développe de façon à rééquilibrer la situation. Et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, à la fois pour la paix, mais également pour le commerce et l'équilibre financier. Chose qu'on avait bien sûr plus vue depuis très longtemps, vu un certain nombre de dissensions. Et ça, j'estime aujourd'hui que c'est vraiment une très très bonne nouvelle.
Monsieur Philippe Gunn, que pensent les Occidentaux et surtout les Américains de ce rapprochement?
Les Américains et les Occidentaux, bien sûr, sont plutôt contre, surtout les Américains. Il est vrai que le monde occidental ne sait plus trop quelle politique internationale mener aujourd'hui. Et c'est du grand n'importe quoi en matière de collaboration diplomatique. Et surtout, au niveau des accords, je pense que quelque part, ça peut fragiliser les accords entre l'Union européenne et la Russie et l'Iran. Moi, je pense malgré tout qu'il faudrait, au contraire, et il faut, je pense que d'ailleurs dans les années qui viennent, je pense qu'on aura certainement un plus grand rapprochement envers la Russie et l'Iran qu'avec les États-Unis qui créent finalement beaucoup, beaucoup de problèmes à travers le monde depuis 50 ans. C'est quand même les États-Unis qui ont déclenché un maximum de conflits, hein, tout ça pour des intérêts financiers, sans tenir compte du bilan humain de la situation. Vous savez, depuis 50 ans, des centaines de milliers de gens sont morts pour de très mauvaises raisons. Et ça, on est vraiment responsable de cette situation. Il est temps que ça cesse et qu'on retrouve un véritable équilibre.
Absolument. Monsieur Luc Michel, concernant la coopération entre les deux pays, le transfert du gaz de l'Iran et de la Russie vers d'autres pays qui va certainement profiter à beaucoup de pays, que pensent les Occidentaux qui sont en manque donc du gaz et des États-Unis?
Écoutez, ils ont une stratégie qui a échoué. Le principal pilier de l'alliance entre Moscou et Téhéran, c'est le domaine du gaz. C'est ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, c'est-à-dire l'association des États producteurs de gaz. Le premier sommet a eu lieu à la Bourg, Guinée équatoriale, en 2019. Le second sommet a eu lieu il y a quelques mois à Doha. Les Américains disent que l'Iran est l'épée géopolitique de la Russie dans le domaine du gaz. D'une part, ils ont arraché le marché du gaz que les Américains contrôlaient avec des hydrocarbures de schiste depuis 2015. Mais deuxièmement, ils ont permis à la Russie de maintenir le contrôle du domaine du gaz en Europe en n'acceptant pas de se substituer à la Russie pour fournir le gaz aux Européens. Donc la stratégie des Européens et des Américains, c'est un total échec. Aujourd'hui, les Européens, évidemment, voudraient limiter le prix du gaz et le prix du pétrole. Ils ne comprennent pas que dans l'offre du marché, qui est le principe de leur libéralisme, c'est l'offre qui conditionne le prix. Dès lors, les Européens auront l'échec. En limitant le prix du gaz ou du pétrole, ils vont simplement concourir à augmenter ses prix sur le marché mondial, parce que le pétrole et le gaz vont devenir plus rares.
Absolument. Monsieur Philippe Hugon, que pensez-vous des propos de Monsieur Luc Michel concernant le transfert de gaz iranien et russe et cette coopération?
Oui, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dans le sens où Luc Michel a bien sûr tout à fait raison dans son analyse de la situation. Et il est vrai que en Europe, nous avons bien sûr pas ces richesses naturelles qui nous permettent d'être indépendants. Donc nous devons composer forcément avec tous ces pays. Moi, je le redis encore une fois, je pense qu'on fait une très grosse erreur de considérer la Russie comme elle est considérée actuellement en Europe. Et il y a une telle désinformation sur les actions de la Russie à travers le monde. Et par contre, en ce qui concerne les États-Unis, c'est le silence absolu. Et on voit une sorte d'omerta concernant les actions politiques des États-Unis à travers le monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment regrettable. Et cette désinformation que nous avons d'une façon perpétuelle et continue dans les médias sur les politiques menées à la fois par l'Iran, mais par la Russie, pour les transferts de gaz, bien sûr, mais c'est l'économie d'une manière générale. Et c'est tout bonnement pitoyable. La situation auquel on assiste aujourd'hui, quoi. Et malheureusement, il n'y a toujours pas eu de rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, et j'entends une véritable collaboration qui permette d'installer des relations sûres et durables. Et ça, c'est vraiment un véritable problème. J'espère que la situation, dans les années qui viennent, de toute façon, il faudra bel et bien que les choses changent si on ne veut pas avoir une situation se dégrader d'une façon dramatique.
Absolument. Monsieur Luc Michel, parlons de désinformation justement. Concernant la politique de sanctions que vous avez évoquée tout à l'heure des États-Unis à l'encontre de l'Iran et de la Russie, est-ce que cette coopération pourra aider pour annuler et contourner ces sanctions afin de développer donc l'industrie par exemple et surtout le nucléaire?
D'autant plus que l'Iran a une longue expérience pour contourner les sanctions, en particulier le corridor Caracas. Téhéran, Dakar au Sénégal. Les Iraniens et les Russes ont réussi à étendre leur alliance à l'Afrique. Les piliers de l'OPEP du gaz, ce sont l'Algérie et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, on l'oublie souvent, c'est l'État leader dans le domaine de la production du gaz. ils ont un complexe ultramoderne qui s'appelle Punta Europa sur l'île de Bioko, près de la capitale Malabo, qui est à la pointe de la production industrielle du gaz, et ils apportent leur technologie à toute l'OPEP du gaz. C'est pour ça que ce sont eux qui ont organisé le premier sommet en juillet 2019. L'Afrique est en train d'échapper aux mains des Occidentaux. Par exemple, le président du Sénégal, de Macky Sall, qui est arrivé au pouvoir avec l'aide des Français et des Américains en 2014, a opéré un retournement géopolitique en 2018. Il est aujourd'hui le principal allié de l'Iran et de la Russie dans le domaine de la production du gaz. Voilà ce qu'il faut revenir dessus. Donc c'est une alliance qui est très importante pour le contournement et la neutralisation des sanctions. Le deuxièmement, évidemment, c'est que l'Iran va soutenir la dédollarisation du monde du pétrole qui est opérée par Moscou avec le soutien des gens de Pékin. Lorsqu'on va dédollariser le marché des hydrocarbures, les Américains vont perdre l'un de leurs principaux leviers de pression sur les États producteurs.
Absolument. On ne peut être que d'accord avec M. Luc Michel. À présent, pour M. Philippe Hugon, est-ce que je peux connaître votre prise de position à l'égard de la politique de sanctions des États-Unis à l'encontre de la Russie et de l'Iran? Donc cette coopération qui va évidemment beaucoup aider à la neutralisation de ces sanctions. Et bien sûr, les États-Unis voient ça d'un très mauvais œil. Oui.
Oui, comme vous venez de le dire, c'est vrai que cette collaboration va neutraliser un certain nombre de décisions prises par l'Union européenne et les États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui orchestrent bien sûr toutes ces sanctions. Maintenant, moi qui me suis rendu de nombreuses fois en Iran, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que l'on peut sanctionner l'Iran. On veut sanctionner un pays qui demande à exister et à vivre normalement. C'est absolument monstrueux de voir que les Américains et les Européens puissent envisager de telles sanctions. Quand on veut qu'un pays se développe, on ne leur met pas des sanctions. Au contraire, on essaye plutôt de les aider et de comprendre la situation. Alors moi, je trouve que tout est possible. Politicienne est déplorable, et on veut utiliser les sanctions, c'est-à-dire quelque part d'utiliser la force, d'utiliser une certaine force de frappe pour contraindre un certain nombre de pays, mais on n'est plus il y a 100 ans en arrière. Les choses ont évolué, il faudrait quand même que les politiciens européens et américains comprennent qu'ils ne sont plus des maîtres du monde et qu'un certain nombre de pays comme l'Iran, la Russie ont le droit d'exister, de mener leur propre politique. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, en 2022, qu'on puisse encore avoir ces réactions vis-à-vis d'un pays, et dans le cas de l'Iran par exemple, un pays qui ne représente strictement aucun danger. Et si demain l'Iran avait des missiles nucléaires, des tas de bombes atomiques, l'Iran ne s'en servirait pas. Et c'est une erreur de considérer l'Iran comme un pays ennemi. L'Iran est un pays qui mérite d'avoir sa place au premier plan mondial des économies, et qui a le droit de se développer à sa vitesse, en fonction de ses propres idées, et ne surtout pas considérer l'Iran comme un pays qui peut créer des problèmes. Ce pays n'a jamais créé de problèmes. Pourquoi voulez-vous que l'Iran crée des problèmes aujourd'hui? L'Iran n'a jamais créé, je le répète encore une fois, n'a jamais créé le moindre problème sur la scène internationale, si ce n'est que de trouver des alliés de façon à pouvoir garantir sa sécurité, aussi bien militaire qu'économique et financière, alimentaire, enfin dans tous les domaines. Arrêtons cette politique d'agression envers tous ces pays et le monde se portera mieux.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien répondre à Monsieur Philippe Hugon sa grande question qui doute justement pourquoi ces pays-là réagissent ainsi à l'encontre de l'Iran et de la Russie?
Le bloc américain occidental, c'est le bloc de l'impérialisme. Il reprend l'impérialisme américain, l'impérialisme français, l'impérialisme allemand, etc. Mais c'est aussi le bloc du néocolonialisme. Le colonialisme occidental a essayé de détruire l'Iran du temps de la Perse et dans les débuts de l'Iran. Le guide iranien a appelé il y a quelques semaines pour le contentieux entre les États-Unis et l'Iran n'avait pas commencé avec la révolution islamique, mais qu'il avait commencé avec le coup d'État contre Mossadegh en 1953. La Russie a été aussi victime, à la fin de la guerre froide, du tentative de colonisation par les Américains. C'est la décennie d'Helsinki, où la Russie a été vendue à l'enclos par ce qu'on appelait à l'époque des oligarques, les hommes comme Berezovsky, comme Khodorkovsky, etc., qui ont été neutralisés par Poutine. Donc, l'alliance anticolonialiste de l'Iran et de la Russie, elle est logique. Les Occidentaux représentent le vieux monde, celui du colonialisme, de l'esclavagisme et de l'exploitation. L'Iran, la Russie, avec la Chine, ils représentent le monde de demain, le monde multipolaire où l'impérialisme n'a plus sa place.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Monsieur Philippe Hugon depuis Paris d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. À l'heure actuelle, les ressources ne constituent plus la base de l'économie industrielle, le capital intellectuel l'a remplacé. De ce fait, les organisations et les centres qui opèrent sous la base de la connaissance et qui sont appelés entreprises basées sur le savoir sont considérés comme étant essentiels pour le développement économique d'un pays. Dans les émissions précédentes, nous avons abordé les activités de plusieurs entreprises fondées sur le savoir en Iran. Dans cette émission, nous parlerons de la société pharmaceutique Mehroma. La compagnie pharmaceutique Mehroma a démarré son activité en 2019, comprenant la ligne de production produits naturels et la ligne de recherche et de développement médicaments anticancéreux. Ce groupe médicinal utilise la technologie de la nano-encapsulation dans les deux sens. L'une des caractéristiques les plus importantes de cette technologie est de prévenir tout risque de dégradation des médicaments dans un milieu défavorable comme l'estomac et l'intestin et de réduire par la suite la quantité de consommation de ces substances. En outre, la réduction des effets secondaires et l'augmentation de l'efficacité des médicaments sont également considérées comme des caractéristiques importantes de cette technologie. Le groupe pharmaceutique Mehroma, en plus de s'appuyer sur ses propres connaissances, qui ne sont en principe détenues que par quelques entreprises dans le monde, bénéficie des capacités scientifiques des professeurs du monde entier. En 2021, cette société a réussi à obtenir le premier certificat du savoir, le plus haut niveau de technologie et de non-copiabilité décerné par le bureau présidentiel. Dans le domaine des médicaments et des matériaux pharmaceutiques avancés, cette société pourrait être classée comme la cinquième société parmi les sociétés du savoir. La société Mehroma a produit 4 produits pharmaceutiques à base de produits naturels dans le but de contribuer à la lutte contre le diabète, les maladies cardiaques et vasculaires, ainsi qu'à la perte de poids, à la stabilisation de la pression artérielle, au renforcement du système immunitaire, à la diminution des inflammations, à l'amélioration du sommeil. Notez que deux produits sont prêts à entrer sur le marché et deux autres sont en attente de permis de l'Organisation des aliments et des médicaments. Le groupe Meromant utilise la capacité des gens professionnels assidus dans son équipe scientifique et commerciale, ce qui est l'une des politiques de ce groupe d'employés du personnel scientifique et gens des universités du pays. Il convient de mentionner que la production des médicaments se fait dans l'une des meilleures collections pharmaceutiques de la plus haute qualité du pays. Compte tenu de la volonté ferme du groupe pharmaceutique de produire des médicaments efficaces, Meromant utilise la technologie d'encapsulation dans le but d'augmenter l'efficacité et de réduire les effets secondaires. Dans ce cas, Meromant a décidé d'utiliser la cannelle encapsulée avec des vitamines et des minéraux comme premier produit, puis l'ail encapsulé avec des vitamines de groupe B devrait être placé comme deuxième produit dans l'agenda de production. Ces produits sont fabriqués avec les meilleures matières premières disponibles avec des analyses détaillées par les laboratoires liés à l'Organisation des aliments et des médicaments. Tous les produits pharmaceutiques fabriqués dans la société Meromant ont les caractéristiques communes suivantes. Utilisation de la technologie de nano-micro-encapsulation, utilisation de matières premières de la plus haute qualité, utilisation d'extraits de matière au lieu de leur poudre, réduction de la dose de médicaments à un par jour, haute efficacité et très peu d'effets secondaires et emballage unique dans le monde pharmaceutique. L'un des produits naturels médicinaux de la société s'appelle Fighter's India, contenant 500 mg d'extraits de cannelle encapsulés, ainsi que des vitamines de groupe B, dont B1, B2, B6, B12, et des minéraux de chrome et de zinc. Le produit Fighter's India est fabriqué conformément à l'échantillon étranger similaire de Cinnamon Plus, produit par la société allemande Bakanasan, spécialisée dans les compléments alimentaires sous forme de complexes de plantes, de minéraux, de vitamines et d'oligo-éléments. Cinnamon Plus était connu depuis de nombreuses années comme le meilleur complément pour aider à contrôler le diabète de type 2 dans le monde. Le médicament Garlinovas contient de l'ail encapsulé ainsi que des vitamines de groupe B, dont B6, B9, B12. Sur la base des résultats répertoriés de certaines études scientifiques, l'ail possède des propriétés spéciales qui aident la santé cardiovasculaire et la réduction du cholestérol. Il convient de noter que l'échantillon étranger similaire sous lequel ce produit est fabriqué est le produit à base d'ail produit par la société américaine NatureMate. Il convient de dire que l'efficacité du produit a été prouvée. Aflacor est un autre produit naturel de la compagnie pharmaceutique Meromant, contenant 650 mg d'extrait de curcuma. La curcumine, en tant que composant actif de cette plante médicinale précieuse, en plus des effets antioxydants, est également efficace comme anti-inflammatoire efficace dans la prévention et le traitement de l'inflammation articulaire. Parmi les épices utilisées, le curcuma a fait l'objet des recherches les plus scientifiques. Le composé biologiquement actif du curcuma, la curcumine, réduit les dommages cellulaires en neutralisant les radicaux libres et les espèces réactives de l'oxygène qui peuvent oxyder les protéines, les lipides et l'ADN. De plus, la curcumine a été évaluée comme utile dans les cas inflammatoires tels que l'arthrite en réduisant la production de cytokines inflammatoires. Amansol est également un produit naturel contenant de l'extrait sec de fenouil encapsulé. Le fenouil est riche en composés similaires à l'œstrogène, une hormone féminine. Chaque graine de fenouil contient des calories, des protéines et des glucides, une petite quantité de graisse sans cholestérol et contient également beaucoup de fibres. Selon des résultats inclus dans la source scientifique Natural Medicine, le fenouil a des propriétés particulières, notamment des propriétés d'augmentation du lait efficaces dans les troubles menstruels. De nombreuses usines pharmaceutiques du pays fonctionnent à différents niveaux dans le cadre des standards de qualité et de production, mais la société pharmaceutique Mehroman, du fait de son souci de la qualité des produits, est au nœud de produits dans un complexe entièrement équipé d'installations et de moyens de pointe approuvés par l'Organisation des aliments et des médicaments et dans des conditions de production optimales. De plus, les meilleures matières premières pharmaceutiques de la plus haute qualité sont utilisées dans la production des produits de l'entreprise.
Thank you.